Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir. Romain Oswi.
Lundi 14 octobre, bonsoir à tous, bienvenue, c'est lundi, c'est reparti, on est ravis de vous présenter la session soirée de l'info sur RFI. Voici les temps forts des 3 heures à venir, le débat du jour qui ce soir parlera football avec cette question. Peut-il y avoir deux grands clubs à Paris? C'est un fantasme de longue date pour certains et qui pourrait bien devenir réalité après les révélations d'un méga projet de rachat du Paris Football Club qui pourrait faire de l'ombre à l'avenir au Paris Saint-Germain. 18h10 TU, le décryptage, les Palestiniens qui racontent leur histoire, podcast exceptionnel, disponible depuis ce lundi sur le site de RFI, son auteur, notre journaliste Guylaine Beltheil, sera l'invité d'Alexis Guilleux. 18h30 TU Afrique Soir, la première édition, et à la une le Sénégal, le gouvernement qui présente son plan d'action économique. 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe en Ukraine ce soir, où avec la guerre, eh bien, se pose la question de la dérussification de la culture. Enfin, le grand reportage ce soir au Congo-Brazzaville, face aux inondations, entre adaptation et résignation. Voilà pour le programme, ça commence avec le grand journal du soir. Évidemment, bonsoir Stéphane Genest.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, Israël qui continuera à frapper sans pitié le Hezbollah, y compris Beyrouth.
Déclaration ce soir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'État hébreu, qui pour la première fois a frappé le nord du Liban ce lundi. Au moins 9 personnes ont été tuées. Nouveau cap de franchi dans les tensions en Asie. La Chine a encerclé Taïwan lors d'un exercice et réaffirme l'option du recours à la force. 125 avions, des destroyers, un porte-avions même ont été mobilisés. Au sommaire également cette première, l'Italie transfère un premier groupe de migrants vers l'Albanie, c'est le dossier de votre journal. Et cette autre première, la fin de la plus grande chasse au trésor au monde, la chouette d'or a été retrouvée 2 semaines après sa découverte. Le créateur de cette sculpture aussi mystérieuse que légendaire s'exprime.
Et puis le sport, ce sera dans le débat du jour, mais ce sera également à la fin de votre édition. Stéphane Genest, on va parler football, la Ligue des Nations reprend ses droits. C'est dans moins de 2 heures, hein, l'affiche de la soirée Belgique-France. Et donc à la une de nouvelles sirènes d'alerte ce lundi dans le centre d'Israël à l'approche de projectiles tirés du Liban.
Sirènes qui ont notamment retenti à Tel Aviv. L'armée israélienne annonce avoir intercepté ce qu'elle qualifie de menace aérienne. Dans le même temps, le Hezbollah dit avoir lancé une salve de roquettes sur Safed, ville dans le nord d'Israël. L'État hébreu qui pour sa part continue de bombarder le Liban. À l'instant, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, explique qu'Israël va continuer à, je cite, « frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth ». Et pour la première fois, c'est le nord du pays qui a été la cible de frappes aériennes israéliennes. Nous sommes en ligne avec notre correspondant dans la capitale libanaise, Paul Khalife. Paul, le ministère libanais de la Santé avance pour le moment un bilan de 9 morts.
Oui Stéphane, c'est un immeuble de 3 étages qui abritait des familles de déplacés chiites dans la localité de Aïto Asgorta, au nord Liban, qui a été entièrement détruit par des avions israéliens. Un autre bâtiment a été sérieusement endommagé. Sgorta est le fief du leader des Maronites du Nord, l'ex-ministre et député Sleiman Frangieh, candidat à la présidentielle soutenu par le Hezbollah et son allié, le chef du Parlement, Nabih Berri. Après avoir vidé les régions à majorité chiite dans le sud du Liban, la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Beka de presque tous leurs habitants, l'armée israélienne cible maintenant les déplacés accueillis par d'autres communautés. C'est dans ce contexte que s'inscrit le raid sur Haït aujourd'hui, et avant lui ceux de Barja, une grande bourgade sunnite à 30 km au sud de Beyrouth, ou la région de Koura, à majorité grecque orthodoxe au nord Liban, et enfin Maïstra, au cœur du Kesselwan maronite dans le mont Liban, où 16 personnes ont été tuées samedi. Ces raids ambulants sur toute la géographie du Liban visent à créer un sentiment de peur et d'insécurité chez les autres communautés, afin qu'elles cessent d'accueillir les déplacés chiites. Le but est de mettre le Hezbollah sous une forte pression politique et sociale et accentuer son isolement sur la scène interne. Des personnalités politiques locales hostiles au Hezbollah commencent d'ailleurs à critiquer la présence de familles proches du parti chiite et appellent même à ne plus accueillir des déplacés.
Paul Khalife, en direct de Beyrouth pour RFI.
Une situation, Stéphane, qui fait réagir.
Notamment ce lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié de désastre l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU face aux guerres en cours à Gaza et au Liban. Téhéran qui accuse les États-Unis d'obstruction. La Chine, pour sa part, met en garde l'État hébreu. Pékin qui demande expressément à Israël de mettre fin aux catastrophes humanitaires à Gaza.
La Chine, justement, qui a effectué d'importants exercices militaires autour de Taïwan.
Plus de 125 avions chinois et des navires de guerre qui ont encerclé l'île ce lundi. Taïwan, on le rappelle, est indépendante, mais Pékin la considère comme une partie de son territoire. Manœuvre de l'armée chinoise qui vise à envoyer un sérieux avertissement aux autorités séparatistes de l'île, selon les autorités chinoises. En réponse, Taïwan a donc mobilisé ses troupes et les États-Unis, principal soutien militaire de Taïwan, ont vivement réagi à ces exercices. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, la Chine augmente donc la pression dans la région, Nicolas Roca.
Dans une carte relayée par CCTV, la chaîne de télévision publique chinoise, l'armée de Pékin a dévoilé les 9 zones de ses exercices aériens et maritimes. La flotte et les avions de l'armée populaire de libération se sont déployés au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de Taïwan, où s'est notamment rendu le Liaoning, l'un des porte-avions chinois. Des navires des gardes-côtes ont aussi franchi la ligne médiane du détroit, une manœuvre visant à détruire symboliquement une frontière maritime officieuse non reconnue par la Chine, qui a aussi appelé les États-Unis à arrêter d'armer Taïwan. Taipei, de son côté, a placé du matériel de défense en position et a annoncé surveiller les manœuvres chinoises. Celles-ci ont été moins intenses et moins longues que lors des deux grands exercices d'encerclement de l'île en mai dernier et en 2022. Mais le déploiement répété de moyens militaires augmente le risque d'accidents pouvant dégénérer en affrontement. Jeudi dernier, le président taïwanais Lai Ching-te avait promis de résister à l'annexion chinoise, ce à quoi Pékin a répondu par cette démonstration de force. Aujourd'hui, il promet de défendre le système constitutionnel et démocratique de Taïwan.
Nicolas Roca, et les relations sont également tendues entre l'Inde et le Canada. Crise diplomatique en cours entre les deux pays. L'Inde accuse le Canada d'enquêter sur un des membres de sa représentation à la suite du meurtre en 2023 sur le sol canadien d'un chef séparatiste sikh, New Delhi, qui s'en agace et qui a rappelé son haut représentant à Ottawa ainsi que 6 autres diplomates.
Allez, on en vient dans le grand journal du soir à cette première en Italie, cette première plus largement à l'échelle européenne. Le transfert d'un groupe de réfugiés par les autorités italiennes, transfert vers les centres que l'Italie vient d'ouvrir en Albanie.
Des centres qui ne sont donc pas dans l'UE, puisque l'Albanie n'est pas un pays membre. Il s'agit là d'un coup de couteau très grave porté au droit d'asile aux yeux des ONG qui défendent précisément le droit des réfugiés. Mais le gouvernement italien de Giorgia Meloni, d'extrême droite, explique mener ces opérations pour faire face à l'afflux de migrants sur ses côtes. C'est le dossier du journal avec vous, Daniel Valo. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Et ces personnes ont donc été embarquées ce lundi à Lampedusa sur un navire de la marine italienne.
Oui, le navire Libra qui va naviguer jusqu'au port albanais de Shengjin, où a été construit l'un des deux centres où seront accueillis les réfugiés. On ne sait pas combien de personnes sont à bord. On sait simplement, d'après la presse italienne, qu'il s'agirait de réfugiés du Bangladesh et de l'Égypte et que le navire ne doit arriver que mercredi en Albanie. Une fois enregistrés à Shengjin, les réfugiés seront transférés dans un second centre à 20 km de là et c'est là qu'aura lieu le traitement des demandes d'asile par le biais d'un lien vidéo entre les juges qui resteront à Rome et les réfugiés. Ces derniers n'auront également accès à leur avocat que par lien vidéo. Une procédure et une externalisation très critiquées par les ONG qui défend le droit d'asile. Écoutez la réaction de Flaminia Delecese de l'ONG International Rescue Committee. Elle est interrogée par Julien Chavanne.
Les États membres de l'Union européenne ont déjà du mal à faire respecter les droits des demandeurs d'asile dans l'Union européenne, à commencer par l'Italie. Il est donc encore plus dangereux d'externaliser ces demandes d'asile dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. N'oublions pas que ces gens ont le droit fondamental de demander l'asile en Europe, quel que soit leur pays d'origine et l'endroit où ils sont arrivés.
Et en Italie, Daniel Valo, la gauche et l'opposition sont également vent debout contre ce projet pour des raisons à la fois humanitaires mais aussi financières.
Oui, car l'accord conclu avec l'Albanie coûte cher à l'Italie. Rome a dû prendre en charge tous les coûts de construction des deux centres de rétention et prendra en charge tous les coûts de sécurité, de soins médicaux et bien entendu les frais juridiques. Sur 5 ans, la facture pourrait s'élever à près d'1 milliard d'euros. Le gouvernement de Giorgia Meloni augmente les impôts et gaspille cet argent en Albanie au mépris du droit d'asile, fustige ce lundi la secrétaire générale du Parti démocrate d'opposition, Elie Schlein. Peu importe ses critiques aux yeux de la dirigeante italienne Giorgia Meloni, qui assure, elle, que son projet fera école en Europe, à l'heure où de nombreux gouvernements de droite se disent, il est vrai, intéressés au sein même de l'Union européenne par cette idée d'externalisation hors des frontières de l'UE des demandes d'asile.
Le dossier du journal signé Daniel Valo pour RFI.
Il est 20h, bientôt 10 minutes à Moscou. La suite de ce grand journal du soir avec Stéphane Genest et direction donc la Russie, où le Français Laurent Vinatier a été condamné ce lundi à 3 ans de prison ferme.
Laurent Vinatier y est détenu depuis le mois de juin. S'est employé sur le sol russe du Centre pour le dialogue humanitaire. Une ONG suisse qui fait de la médiation dans des conflits hors des circuits diplomatiques officiels est accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent de l'étranger. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Correspondance à Moscou, signé Anissa El-Jabri.
Laurent Vinatier risquait jusqu'à 5 ans de prison. Il avait plaidé coupable, assuré, ignoré qu'il aurait dû s'enregistrer comme agent de l'étranger. Agent de l'étranger, c'est ce label utilisé en Russie contre les voix critiques et qui impose de lourdes obligations administratives. Ses avocats avaient tout demandé une simple amende. Ils jugent donc sévère la condamnation à 3 ans derrière les barreaux, entendent se faire à nouveau entendre en appel. Début juillet dernier, le FSB, le service de sécurité intérieure russe, avait accusé Laurent Vinatier d'avoir recueilli, je cite, « des informations militaires et techniques qui peuvent être utilisées par des services de renseignement étrangers » à l'encontre de la sécurité de la Russie. Ces accusations, à l'époque, avaient fait redouter une inculpation très grave, comme celle d'espionnage en Russie. C'est un crime passible de 20 ans de prison. L'arrestation et la condamnation de ce chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique intervient en tout cas à un moment où les relations entre la France et la Russie sont très tendues. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et par ailleurs, la justice française a saisi dans le sud du pays plus de 70 millions d'euros de biens appartenant à deux hommes d'affaires d'origine russe dans le cadre d'une enquête pour présomption de blanchiment aggravé.
Et puis la saison 2024 des Nobel, ça y est, c'est terminé. Dernier prix, celui d'économie, il a été décerné ce lundi.
Remporté par trois chercheurs, l'américano-turc Daron Acemoglu et les britanno-américains Simon Johnson et James Robinson. Ils ont été récompensés pour leurs études sur les différences de prospérité entre les nations, un travail essentiel pour l'Académie des sciences de Suède qui a rappelé l'urgence de réduire ces inégalités dans le monde. L'économiste Timo Boppart est membre du comité de sélection. Il explique pour RFI les raisons de ce choix et l'importance de ses travaux.
Comprendre les différences de richesse entre les pays est une des questions les plus importantes en sciences sociales, mais c'est aussi une des plus difficiles. Et c'est exactement ce à quoi ont réussi à répondre les trois lauréats, en étudiant l'histoire de la colonisation européenne et ses impacts économiques. Leur question était pourquoi les institutions qui alimentent la disparité persistent dans le temps et pourquoi les régimes autocratiques ne sont pas réformés. Parce que les dirigeants d'anciennes colonies reproduisent souvent ce que les Européens ont fait chez eux. Les travaux des lauréats ont permis de comprendre le rôle de ces anciennes institutions, comment elles peuvent changer et pourquoi elles ne changent pas toujours.
Timo Boppart, membre du comité Nobel et professeur d'économie, joint par Gali Bonin.
Toujours dans l'actualité économique, cette fois en France, le budget qui arrive cette semaine au Parlement, Emmanuel Macron, d'ailleurs s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure.
Le chef de l'État qui s'est fondu de quelques commentaires lors d'une visite au Salon de l'Automobile de Paris. Alors sans le dire ouvertement, il s'est montré hostile aux hausses d'impôts prévues dans le projet de loi de finances du gouvernement Barnier. Priorité, je vous le rappelle, donnée à la baisse des dépenses publiques et à la hausse des recettes, en quête de 60 milliards d'euros d'économies. Vous avez suivi Emmanuel Macron dans les allées du Salon de l'Auto, Raphaël Delvolvé, et le président venait d'ailleurs à la rencontre d'acteurs d'un secteur qui suit avec anxiété les débats budgétaires du moment, Raphaël.
L'industrie automobile souffre. Entre la concurrence chinoise et le calendrier serré, cet horizon 2035 pour passer au tout électrique en Europe. Dans ce contexte, les projets de hausse d'impôts sur les sociétés donnent des sueurs froides. Emmanuel Macron se montre compréhensif.
Nous sommes l'un des pays de l'OCDE qui taxe d'ores et déjà le plus, malgré toutes les baisses qu'on a faites depuis 7 ans. Le problème de l'Europe, c'est sa croissance et sa capacité à innover. Donc c'est ça qu'il faut booster.
Ça ressemble à quelques éléments de langage près au discours des députés macronistes ces dernières semaines. Ils craignent que le budget Barnier détruise 7 ans de macronisme, cette politique de l'offre fondée sur le travail et les baisses d'impôts. Le président assure ne pas avoir changé de cap.
La France doit continuer à réindustrialiser, à innover, à créer des emplois et à inciter à la création d'emplois. C'est ça la priorité du pays.
Le cap reste le même, mais le pouvoir est maintenant au Parlement. Emmanuel Macron n'a plus la main.
Moi, je souhaite que à la fois le gouvernement et le Parlement puissent trouver le bon chemin qui leur permettra tout à la fois de trouver les équilibres financiers, l'équation politique, mais de le faire en préservant la création d'activités, la création d'emplois dans notre pays.
À l'Assemblée, le président peut cependant compter sur des députés prêts à se battre pour faire survivre le macronisme. L'un d'eux, qui accompagnait le chef de l'État au salon de l'automobile, annonce fièrement avoir déposé plusieurs amendements pour limiter les hausses d'impôts.
Voilà, Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Allez, c'est la fin de la chasse au trésor la plus connue au monde, là. Le mystère de la chouette d'or.
Il y a deux semaines, cette chouette a été retrouvée et cette chasse, elle a tenu en haleine pendant plus de 30 ans des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde. Elle a donc pris fin. Michel Becker, co-créateur du jeu, s'est d'ailleurs exprimé dans une longue vidéo publiée ce dimanche pour la première fois. Il a d'ailleurs confirmé que sa chouette enterrée en avril 93 a bien été retrouvée dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier. Le ou les gagnants remportent donc cette sculpture de la chouette d'or d'une valeur initiale estimée à environ 150 000 euros, Sophie Torlotte.
En un lieu, tout commence. En un point, tout s'achève.
Filmé dans la pénombre, alors, voilà, l'homme qui se présente comme Michel Becker, le co-organisateur de la chasse au trésor moderne la plus courue au monde, le confirme.
Sur les 22 531 solutions soumises, celle qui a été validée est la seule qui soit exacte.
Depuis avril 1993, des centaines de milliers de passionnés ont tenté de décrypter les 11 énigmes publiées dans un livre, indiquant l'emplacement où était enterrée une réplique d'une chouette d'une dizaine de kilos en métaux précieux. Michel Becker se montre très précis sur les conditions de résolution de l'enquête.
À 23h22:20, la solution était bien enregistrée dans la base de données du site de vérification.
Mais pour le reste, le lieu de la découverte reste mystérieux et les gagnants inconnus.
L'anonymat absolu m'a été demandé. En outre, la chouette est désormais loin de France.
Tout sera révélé les 23 et 24 avril 2025. D'ici là, un film aura été réalisé. Les fans qui le souhaitent peuvent témoigner de leur quête et une nouvelle chouette prendra son envol.
Avec la chouette.
C'est avec des vrais bruits de chouette.
Voilà, c'était Sophie Torlotin pour RFI.
Vous connaissiez ce mystère de la chouette d'or ?
Non, pas du tout.
Eh ben voilà,
mais
comme ça
c'est très intéressant.
Merci beaucoup Stéphane Genest. C'était le grand journal du soir sur RFI. Allez, dans les prochaines minutes, nous nous rendrons à Pila, village de 1800 habitants qui est situé entre la République de Chypre du Nord, qui est turque, et la République de Chypre au Sud, qui elle est grecque. Comment, dans cette zone démilitarisée, les deux communautés cohabitent-elles ? Ce sera un reportage de nos confrères du journal La Croix, nous les appellerons. Puis direction un petit village du Sud de l'Inde qui est envahi par les journalistes et pour cause, une partie des racines de Kamala Harris vient de là. Les habitants sont incrédules face à cette vague à l'égard de la candidate démocrate à la Maison Blanche. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir, salut Diouf.
Bonsoir Romain.
Allez, du foot. Évidemment, pour débuter la Ligue des Nations en programme.
Oui, avec la France qui affronte la Belgique ce soir à Bruxelles, un adversaire que les Bleus aiment affronter, car figurez-vous qu'ils ont enchaîné 4 victoires consécutives face aux Diables Rouges. La dernière date du mois dernier pour le compte de cette même Ligue des Nations. Mais pour Didier Deschamps, il ne faut surtout pas parler d'avantages psychologiques.
Je suis certain que qu'on aura une équipe belge très motivée, comme elle l'est toujours. Il se passera ce qui se passera, avec l'objectif évidemment pour les deux équipes d'obtenir le meilleur résultat, sans que ça change ce qui s'est passé avant. Ça rentre dans l'historique, mais je pense pas qu'on puisse parler d'ascendant, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas forcément les mêmes joueurs aussi, donc ça sera... un autre France-Belgique avec évidemment un scénario, un résultat et qui après le match de demain fera partie de l'histoire aussi.
Belgique-France est à 18h45, temps universel. La France est deuxième de son groupe derrière l'Italie. La nationale qui affronte Israël à la même heure.
Toujours dans la Ligue des Nations, le gros choc de cette quatrième journée de la phase de poule, ce sera
l'Allemagne qui reçoit les Pays-Bas à Munich. À l'aller en septembre, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 2 buts partout. Les Oranges ne vont pas pouvoir compter sur leur capitaine Virgil van Dijk. Il sera absent de la feuille de match à cause de son carton rouge reçu contre la Hongrie vendredi soir. La sélection l'a d'ailleurs libéré pour qu'il rejoigne Liverpool afin de préparer les prochaines échéances. Son partenaire de sélection et de club, l'attaquant Cody Gakpo, reconnaît que son absence est un immense coup dur pour la défense néerlandaise.
C'est une absence de marque. Tout le monde connaît son influence sur le groupe, mais aussi l'impact que sa présence peut avoir sur les adversaires. Il nous manquera forcément. Bien sûr, c'est un joueur exceptionnel, mais nous allons devoir le remplacer. Et nous avons d'autres très très bons joueurs qui peuvent faire le job.
Coup d'envoi de la rencontre dans moins d'une demi-heure.
Allez, le basket, dans 8 jours, c'est la reprise de la NBA déjà. Et une star de l'équipe des États-Unis va faire un pass sur 2 matchs de préparation.
Et oui, il s'agit de Joel Embiid, le joueur des Sixers de Philadelphie ne va prendre aucun risque avec son genou gauche douloureux depuis un certain temps. Le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris devrait être prêt le 23 octobre prochain pour le choc de la saison régulière en conférence Est face aux Bucks de Milwaukee.
Avec du rugby, il y a une légende qui tire sa révérence.
Jonathan Davids raccroche les crampons. Le centre de l'équipe galloise qui cumule au total 96 sélections a officialisé aujourd'hui la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux. Il compte dans son palmarès 4 tournois destination dont 2 grands chelems. Le Fox, comme on le surnomme, était l'un des cadres de la génération dorée au même titre qu'un Olin Wayne Jones ou encore Ken Owens.
Allez, un mot de cyclisme pour terminer. La liste des finalistes pour les vélos d'or dévoilée aujourd'hui.
Oui, et il n'y a vraiment pas de surprise parmi les nominés. Pogacar, Van Der Poel et Evenepoel en font bien partie. Chez les femmes, plusieurs noms prestigieux y figurent aussi, comme la championne du monde Lotte Kopecky. Et les résultats seront connus le 6 décembre prochain.
Merci, salut Diouf. Cette question à présent, l'avenir de Chypre se joue-t-il demain, mardi, devant les Nations Unies à New York ? Sont attendus autour de la table les présidents de la République de Chypre du Nord et de celle de Chypre au Sud. L'objectif, c'est de tenter de rouvrir des négociations pour une solution politique, alors que cette année 2024 marque les 50 ans de la partition de l'île. Bonsoir Agnès Rotivel.
Bonsoir.
Journaliste au service Monde du journal La Croix, de retour de Chypre. Votre reportage est à découvrir dans l'édition de demain, mardi. Alors, vous êtes rendu dans la zone démilitarisée et qui donne, je dirais, un bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la vie entre les deux communautés. Donc, ce sera ma première question. Comment, dans cette zone, les Turcs qui vivent au nord cohabitent-ils avec les Grecs qui vivent au sud ?
Alors, c'est une situation très particulière dans cette île de Chypre qui est divisée depuis 1974, parce que sur la ligne verte, donc c'est donc la ligne de démarcation qui sépare la République du Nord, qui n'est pas reconnue internationalement, de la Chypre, de la République de Chypre, qui est au sud. Et donc, le fruit de cette partition, c'est aussi la présence de 2 petits villages, dont l'un où je suis allée, c'est Pila, où vous avez 2 populations, donc une population chypriote turque qui cohabite avec une population chypriote grecque. Et les deux étaient là auparavant, ont toujours vécu ensemble et malgré la partition, ils sont quand même restés ensemble. Alors la situation n'est pas facile parce que tout fait problème. Déjà, les deux communautés ont chacune leurs institutions. Il y a un maire pour les chypriotes grecs et il y a un mokhtar pour les chypriotes turcs. Il y a des cafés turcs et des cafés plutôt grecs. Il y a des maisons aussi qui sont habitées par des Turcs ou par des chypriotes turcs ou des chypriotes grecs, mais elles sont un petit peu mélangées. Elles sont pas, il n'y a pas des quartiers spécifiques. Effectivement, tout fait problème.
Et comment cette cohabitation se passe-t-elle par conséquent ?
Alors, si vous interrogez la population, elle vous dit que tout va à peu près bien parce que on se reconnaît on se voit tous les jours, les uns vont acheter le pain chez le grec, la viande chez celui qui est chypriote turc, etc. Mais là où se posent les problèmes, c'est pour toutes les décisions qui concernent parce que ce village est sur la ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation, elle est surveillée par les Nations Unies, les casques bleus. Et donc, ils sont en fait aussi le garant de la sécurité de ce village. Et chaque fois, ils doivent aussi un peu arbitrer les problèmes entre les deux communautés. Et l'un des problèmes concerne le tracé d'une route que les chypriotes turcs veulent. Il y a déjà une route qui va jusqu'à la partie nord de Chypre, mais ils en voudraient une deuxième parce que la première est très encombrée le matin, puisque la plupart des gens, des chypriotes turcs du village, sont tournés vers le nord. Même s'ils habitent sur la ligne de démarcation, ils sont plutôt tournés vers le nord, comme les chypriotes grecs sont tournés plutôt vers le sud. Et pour aller au nord, c'est-à-dire emmener leurs enfants à l'école le matin ou aller travailler dans la République du Nord, ils doivent prendre leur voiture et il y a des embouteillages monstres. Donc, ils ont demandé l'ouverture d'une nouvelle route, ce que ne veulent pas les chypriotes grecs, qui, eux, demandent qu'une partie des terrains de la zone démilitarisée, soit utilisée pour des projets immobiliers. Et le maire m'a expliqué, il y a beaucoup d'investisseurs israéliens, iraniens, libanais qui veulent construire des appartements, etc. Et il faut leur donner des terrains. Donnons les terrains de la ligne démilitarisée. En fait, pour les Chypriotes grecs, cette ligne de démarcation, qui est quand même assez large, hein, qui comporte quand même beaucoup d'espace, elle devrait être mieux utilisée plutôt que rester telle qu'elle et faire partie de la vie courante. Évidemment, pour eux, ils ne reconnaissent plus la ligne de démarcation pour certains d'entre eux et voudraient que ce soit une partie de la Chypriote grecque. C'est un peu compliqué, mais ça montre que même si on veut vivre ensemble, on vit ensemble, mais on vit pas vraiment, les vies sont un peu séparées par les intérêts des uns et des autres.
À Chypre, le village mixte de Pila, assis sur un volcan. Votre reportage, Agnès Rotivel, a retrouvé ce mardi dans La Croix et sur votre site internet. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
L'échéance se rapproche. Dans 3 semaines et 1 jour, le monde aura les yeux braqués sur les États-Unis où se jouera l'élection à la Maison-Blanche. Épreuve que l'enjeu monopolise l'attention d'absolument toute la planète, direction l'Inde. Dans un petit village du sud du pays qui est envahi par la presse, et cela pour une raison bien précise, c'est là où se trouvent les racines de la candidate démocrate Kamala Harris. Dans le Tamil Nadu, le village de son grand-père, où les locaux aussi entre enthousiasme et incrédulité face à cette Kamala Mania. Reportage Côte Bastin.
Tulasendrapuram, 350 habitants, quelques maisons patinées et un temple hindou, objet de toutes les attentions, depuis qu'à 14 000 km de là, une petite fille du village candidate à la tête de la première puissance mondiale. Natarajan Velar, le prêtre de ce temple coloré.
C'est ici, écrit en tamoul. En 1984, son grand-père, P.V. Gopalan, a donné 250 roupies pour le temple. À cette époque, la famille avait déjà déménagé à Chennai. Là, le nom de sa tante est gravé. Et enfin, tout en bas, le nom de Kamala Harris. C'est sa tante qui a effectué ce don en son nom.
Si le grand-père de Kamala Harris est né ici, ses enfants n'y ont pas vécu. Shyamala, l'une de ses filles, deviendra scientifique en Californie, où elle donnera naissance à Kamala Harris. Tradition tamoule, les Gopalan ont envoyé de petites sommes au village. Seule trace de leur passage, explique Natarajan Velar devant une friche.
Il y avait 96 maisons ici, dont celle de son grand-père. Beaucoup sont en ruine ou ont disparu. Le terrain des Gopalan a changé de main 3 ou 4 fois depuis qu'il a été vendu. Le village n'est plus ce qu'il était, mais les visites de journalistes n'arrêtent pas depuis que Kamala Harris est candidate. Vous êtes la 20e équipe.
Ramanan, un retraité qui s'occupe de l'administration du temple, s'agace de ce défilé. Il affirme que des articles ont créé la légende d'un village qui vibrerait au rythme des élections américaines.
Ils nous mettent les mots dans la bouche. Quand les journalistes demandent aux habitants s'ils sont fiers qu'une descendante du village puisse gouverner le plus puissant des pays, forcément ils disent oui. Certains ont même acheté des offrandes et organisé une cérémonie pour Kamala Harris. Juste pour les images.
Parmi les habitants que nous croiserons, le nom de Kamala Harris provoquera au mieux des sourires embarrassés. Mais un politicien local a cependant bien réuni des villageois le jour de sa nomination. Il s'exprime sur cette vidéo.
Sa victoire est notre objectif. C'est pour ça que nous organisons une cérémonie. Notre puissante divinité va l'aider. Nous serions extrêmement fiers qu'elle vienne.
Selon des médias indiens, un autre village prierait lui pour Usha Vance, la femme du vice-président choisi par Donald Trump, possible seconde dame aux États-Unis. Vrai ou pas, une nouvelle illustration de l'empreinte de cette élection américaine sur le monde. Côte Bastin, Tulasendrapuram, RFI.
Allez, retour à Paris. Dans une minute, ce sera le débat du jour. Et on mettra ce soir un maillot et on chaussera des crampons de foot pour poser la question. Peut-il y avoir 2 grands clubs de football à Paris? Un projet pharaonique annonce le rachat du Paris Football Club qui, dans les années qui viennent, pourrait faire de l'ombre au prestigieux Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que cela augure? Restez avec nous. On revient dans une minute sur RFI.
Santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Demain.
La crise hémorroïdaire est une pathologie taboue. Comment la soigner et la prévenir?
Mercredi.
Arthrite, arthrose, l'alimentation peut atténuer les douleurs.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Bazar Bar.
Jules et Masego.
RFI.